Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer notre enseignement sur l'Apocalypse. Et je vous rappelle que nous passons de très très longs moments à étudier l'Apocalypse. Parce qu'il y a des grandes richesses dans ce livre, c'est les richesses de la fin des temps qui nous sont clairement expliquées. Et nous ne devons pas en faire un sujet qui, je dirais, va occuper toute notre vie. Mais nous devons avoir l'intelligence de la fin des temps. Encore tout à l'heure, je regardais sur Internet. Et vous verrez, là, si vous regardez Yahoo, il y a juste un endroit en Australie où la mer est devenue un peu rouge. Et ce n'est pas très, je dirais, bon, c'est pas une grande partie de la mer, loin de là, c'est, je sais pas, quelques dizaines de mètres le long du rivage, quelques centaines peut-être. Mais quand vous lisez les commentaires des gens, mais c'est incroyable. Et des chrétiens qui commandent des trucs et qui font des comparaisons avec les plaies d'Égypte où Moïse a changé la mer en le fleuve Nil en sang. Et il cite des versets bibliques en disant oui, voilà, c'est la fin des temps qui arrive, etc., etc. On vous l'avait bien dit. Les gens ne comprennent rien, c'est triste. C'est pour ça que vraiment, il nous faut un peuple intelligent dans la fin des temps. Il y a tellement de gens qui se font avoir par des trucs bizarres. Donc soyons et apprenons à interpréter correctement l'Écriture. Parce qu'il y a tellement de chrétiens qui s'embarquent dans des trucs. En oubliant le principal, l'accomplissement des promesses du royaume de Dieu. Donc, c'est du royaume de Dieu. Vraiment, c'est important. Et nous devons avoir cette intelligence. Non pas en vue de dire nous savons tout sur la fin des temps. Mais l'objectif, c'est d'aller évangéliser. Et en connaissant réellement des choses spirituelles. Dans l'Apocalypse, nous sommes en train de le découvrir, il y a beaucoup de richesses sur le monde invisible. Il y a beaucoup de vérités sur comment ça se passe dans le monde invisible, dans le monde spirituel de Dieu. Donc nous devons en tirer de très bonnes leçons. Donc je vous rappelle brièvement, donc, dans le premier chapitre, Jean se présente. Il a la vision de Jésus glorifié, il tombe sous la puissance de Dieu. Nous avions déjà largement vu tout cela, chapitre 2 et chapitre 3. Jésus lui donne la révélation sur les sept églises. Et puis, après, au chapitre 4, tout a l'air de changer. À partir du chapitre 4, vous ne verrez plus l'Église sur la terre. Et là, le chapitre 4 nous montre une scène extraordinaire du troisième ciel. Et nous l'avons largement détaillée. Et puis, au chapitre 5, il va y avoir un événement particulier. Il y a un livre scellé de sept sceaux. Et Jean est là, il observe une scène prophétique. Je vous assure, dans l'Apocalypse, Jean a fait un voyage dans le monde spirituel absolument phénoménal. Il a vu des choses, il a entendu des choses. Je crois même qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'a pu voir et entendre. Avec une telle révélation. Franchement, quand on étudie l'Apocalypse, je vous rappelle que ce n'est pas un livre pour faire peur.
Ce n'est
pas un livre pour aller raconter 666 et l'Antichrist. D'ailleurs, vous avez vu, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup parlé.
Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas l'objectif de ce livre. Je vous rappelle que l'objectif de l'Apocalypse, c'est la restauration et l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Rappelez-vous, Adam et Ève ont chuté. Satan a pu prendre le contrôle des systèmes de ce monde, de la gestion des systèmes de ce monde. Et l'Apocalypse va nous montrer comment Dieu va récupérer d'abord la gestion de sa propriété. Comment il le fait ? Au travers de la tribulation, nous l'avons vu. Nous sommes en train d'étudier cela. Donc, chapitre 5, on voit que c'est seulement Jésus, l'agneau, celui qui a vaincu, qui va pouvoir ouvrir le livre avec les sept sceaux. Et bien évidemment, avant de comprendre ce que c'est que la tribulation, les sept sceaux, nous avions expliqué trois piliers indispensables à bien comprendre. C'est l'enlèvement de l'église, nous le savons. Donc Jésus va venir rechercher son église avant pour la protéger de la tribulation. Je vous rappelle que la tribulation n'est pas l'œuvre du diable. Ce n'est pas les hommes qui peuvent accélérer ce temps de tribulation. Mais c'est une œuvre divine, de jugement divin, qui vont venir frapper les hommes et la terre jusqu'à temps que tout le monde se courbe devant Dieu. Et nous savons que dans la tribulation, il va y avoir deux fronts qui vont se lever. Dieu qui envoie ses jugements et qui va accélérer ses jugements. Et Satan qui va tout faire pour emmener un maximum de personnes avec lui. Mais plus on avance dans la tribulation, plus on voit une accélération du monde invisible, de ce qui se passe dans le monde invisible.
Et
évidemment, je vous rappelle que ce qui se passe sur la terre, les influences, entre autres, et parfois les actions directes viennent d'abord du monde invisible pour se manifester dans le monde visible. Alors, nous avons vu que l'enlèvement, c'est un événement très important pour l'Église. Dieu enlève son ambassade avant de déclarer la guerre. Donc, on sait que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ils vont descendre du troisième ciel. C'est la première phase de la première résurrection, et souvenez-vous de la première phase de la première résurrection, phase, le mot phase ici. Et ensuite, nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Et nous allons rejoindre Christ dans les airs. Et retour au troisième ciel, pendant sept ans, nous aurons le tribunal de récompense, le tribunal de Christ. Donc ça, nous l'avions largement expliqué. Et évidemment, j'ai dû aussi vous expliquer les 70 semaines d'année de Daniel. Et nous avons vu différentes visions que Daniel va recevoir. Daniel 2, la statue, où Jésus vient faire détruire les systèmes de ce monde. Nous avons vu la vision de Daniel 9 aussi, l'explication des 70 semaines d'années. Et nous avons parlé aussi de Daniel chapitre 7, des différentes bêtes. Et particulièrement la dernière bête, la quatrième bête qui est très effrayante, l'Empire romain reconstitué. Mais je vous rappelle régulièrement une chose, les prophètes de l'Ancien Testament et même Jésus dans Matthieu 24 ne donnaient aucune révélation sur le temps de l'Église. Nous savons qu'il y a 69 semaines d'années qui se sont accomplies depuis le début de la reconstitution construction du temple de Jérusalem
au
6e siècle avant Jésus,
5e
précisément, excusez-moi,
5e siècle avant Jésus.
Et quand le Messie est retranché,
alors
il y a le temps du mystère, la dispensation du mystère qui est la dispensation de l'Église. Et le temps pour Israël, le temps prophétique pour Israël s'est arrêté.
Donc,
nous savons quand Jésus vient chercher son Église,
le
temps prophétique pour Israël recommence.
Et
il y a les 7 dernières années à exécuter prophétiquement.
Et
c'est là où le premier sceau commence à être envoyé sur la terre. Nous l'avons vu, le cheval qui part, c'est vraiment les choses sont arrêtées, c'est-à-dire tout va s'accomplir.
Et
sur ce cheval, nous savons du premier saut, ce n'est ni Christ, ni un Satan ou qui que ce soit, un envoyé de Satan, mais c'est simplement pour montrer que les choses sont arrêtées d'avance et que Dieu va avoir le point final de tout cela. Ensuite, nous avons vu le deuxième saut, c'est les guerres et les bruits de guerre. Troisième saut est crise économique mondiale. Quatrième saut, il y a plein de gens, il y a un quart de la terre qui va disparaître. Et puis, on voit le cinquième saut aussi. Là, c'est Dieu qui fait alliance avec ceux qui vont se convertir pendant la tribulation. Et on remarque très très bien, quand nous lisons en parallèle avec les sept sceaux, quand vous lisez en parallèle Matthieu 24, vous allez retrouver les étapes. Ça commence par des problèmes, des guerres, etc. etc. Et à chaque fois, il y a comme un aspect exponentiel, c'est-à-dire ça monte d'un seul coup au niveau des jugements de Dieu et des violences sataniques en parallèle. Donc, il y a le sixième
saut.
Et là, on sait qu'il y a certaines choses qui se passent au niveau des éléments de ce monde. Et puis, au chapitre 7, on a vu qu'il y a les 144 000 juifs qui vont être sauvés pendant la première partie de la tribulation. Et nous avons remarqué que ces 144 000, c'est évident que c'est seulement la première partie de la tribulation, parce que la Bible nous dit qu'Israël va se convertir en masse. Il va y avoir un immense réveil, tout Israël va se convertir à la fin de la tribulation. Donc ce n'est pas possible qu'il n'y en ait que
144 000. Israël izokwihana yose kumva rero yihanya yose si aba 144 gusa hariho nabandi bazokwihana.
Alors nous avons clairement aussi établi une chose. Pendant le temps de la grâce, Dieu ne juge pas la terre. Je vous le rappelle, il y a eu des jugements de Dieu avant la loi de Moïse. Israël était aussi défendu quand il était attaqué.
Où
Dieu faisait des interventions directes au travers des armées. Mais dans le temps de la grâce, Dieu n'a pas d'alliance avec les nations. Dieu n'envoie aucun fléau ou aucun jugement aujourd'hui tant que nous sommes dans le temps de la grâce. Et ça, je sais que c'est tellement ancré dans les mentalités des chrétiens. Il y en a plein qui pensent que Dieu envoie ceci, Dieu envoie... Non, dans le temps de la grâce, non, Dieu n'envoie absolument aucun jugement. C'est le temps de sa patience.
Et
là, pendant la tribulation, il va bombarder la terre. Donc ça, il faut bien comprendre la différence. À la fin de la dispensation de la grâce, Dieu va bombarder la terre, entre guillemets, avec ses jugements. Donc nous avons vu ensuite qu'il y a le septième saut. Et quand il y a le septième saut, là, d'un seul coup, le septième saut est beaucoup plus complexe. Et on va le voir à chaque fois qu'il y a numéro 7, il y a quelque chose qui va se passer. Et nous avions étudié le chapitre 8, Et là, on s'aperçoit qu'il y a sept trompettes. Donc, il y a sept jugements dans le septième sceau.
Et
nous avons vu les six premières trompettes.
Nous avons
vu comment Dieu va secouer la terre avec le feu. Dieu avait dit qu'il ne détruirait plus la terre par l'eau, rappelez-vous, avec le déluge. Mais là, Dieu va détruire une partie de la surface de la terre avec le feu. Ensuite, deuxième trompette, au chapitre 8, versets 8 et 9, nous avons vu que c'est certainement des tsunamis, des éruptions, les plaques tectoniques de la terre, Dieu va les faire bouger. Ensuite, la troisième trompette, Dieu va amener à ce que les sources d'eau soient polluées. Là, c'est des interventions divines, comme en Égypte. Comme les plaies d'Égypte. Et Dieu va dire, je vous ai donné toutes ces ressources naturelles pendant des millénaires et vous vous êtes moqué de moi. Ça vous paraît tellement naturel et en plus vous me crachez à la figure et vous allez voir qui a mis cela dans la terre. Comme je vous le dis et je vous le redis, quand Dieu est fâché, il ne faut pas être dans le coin. Je vous garantis, ceux qui vont subir la tribulation, ils auront regretté. Un certain nombre vont se convertir, c'est clair. Mais ils vont subir vraiment des choses terribles. Alors, quatrième trompette, versets 12 à 13, on a vu que c'est un cataclysme. Et là, vraiment, je vous ai montré que dans l'Apocalypse, parfois on parle d'une façon figuratif, surtout des étoiles qui tombent sur la terre ou des trucs comme ça. Parce qu'une étoile, c'est une immense boule de gaz. Et si une étoile tombait directement sur la terre, il
n'y
aurait plus rien sur la terre en une fraction de seconde. Donc il faut faire attention quand vous lisez qu'il y a des choses qui tombent sur la terre. Des fois, c'est du langage figuratif. Par contre, il y a des fois où c'est vraiment des phénomènes. Là, nous le voyons clairement, je vous l'ai expliqué dans la quatrième trompette. Eh bien, nous avons vu que réellement, il va y avoir le soleil qui va s'atténuer dans sa lumière.
Et
évidemment, la lune va en recevoir des conséquences, parce que la lune brille, parce que c'est le soleil, elle reflète le soleil. Et verset 13, nous avons vu qu'il va y avoir d'autres malheurs, plusieurs malheurs qui vont continuer.
Et
là, nous avons commencé à étudier le chapitre 9 que nous allons continuer. Et nous avons commencé à remarquer que on a parlé de l'abîme. Là, il est parlé donc Apocalypse chapitre 9 verset 1. Il est dit, le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut
donné.
Alors là, nous nous sommes posés un certain nombre de questions. Parce que nous avons vu que la Bible ici nous parle de l'abîme, qui est le mot grec abyssos. Et je vous ai clairement montré que sous nos pieds, au centre de la terre, il y a cet abîme.
Et
nous avons découvert que dans l'abîme, Jésus a été dans l'abîme, abyssos, nous dit la parole de Dieu. Nous savons aussi qu'il y a des anges déchus qui ont été dans l'abîme, qui sont dans l'abîme. Et là, on a une preuve tangible au chapitre 9 que le monde invisible des esprits humains et de certains esprits sataniques, ce monde invisible est au centre de la terre, nous l'avons vu dans Éphésiens chapitre 4. C'est très clair dans la parole de Dieu. Et aussi, c'est clair que c'est contrôlé par Dieu.
Je
vous ai dit qu'il y a des gens, qui, même des prédicateurs qui disent « Oui, le diable est certainement en train de danser en enfer. Le diable n'est pas en enfer et il ne danse pas en enfer. » Chaque personne qui quitte ce monde, son corps reste ici, mais son âme et son esprit vont quelque part. Personne ne se promène. Les esprits humains vont toujours quelque part qui est contrôlé par Dieu. Donc je voulais clairement expliquer la dernière fois. Nous avons vu que l'abîme était aussi le séjour des morts qui est réservé pour les hommes. Avant que Jésus ne soit ressuscité,
il y
avait deux parties, le sein d'Abraham, les gens qui attendaient, qui croyaient en Dieu et qui attendaient la résurrection, la mort, la venue du Messie, la mort et la résurrection de Jésus. La partie de l'enfer et le Tartarus, ces anges déchus, ces anges qui ont péché contre Dieu, qui ont été capturés lors de la grande bataille qu'il y a eu entre les anges de Dieu et les anges déchus. Je vous rappelle que le sein d'Abraham a été entièrement vidé. Lorsque Jésus est ressuscité, il est monté au troisième ciel pour offrir son sang, pour sceller notre alliance. Et après, la Bible dans Éphésiens 4, on va relire ces textes-là, il est dit, c'est pourquoi il est étant monté dans les hauteurs, au verset 8, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4, 8.
Batubwira ngo nico gituma bavuga ngo yaraduze ajiyo hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire.
Donc nous savons que Jésus est monté une première fois pour offrir son sang en témoignage et en scellant notre alliance, la nouvelle alliance.
Turazi ko Yesu yaduze agatanga amaraso yiwe kugira ngo ashiriki
dodo. Mais la Bible nous dit clairement qu'il est retourné dans le séjour des morts.
Kugucungurwa kwacu maze biritwereka yuko
yacamanuka. Il a emmené les captifs. C'est-à-dire, c'était ceux qui croyaient en Dieu, qui attendaient le Messie promis. Il les a fait naître de nouveau à ce moment-là. Et ils sont partis au troisième ciel. Et maintenant, je vous rappelle que toute personne, tout chrétien né de nouveau qui meurt, va directement au troisième ciel. Le sein d'Abraham est vide et restera toujours vide. Alors maintenant qu'on a reposé ces fondations, nous allons relire ce passage. On va lire donc à partir du verset, on va relire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, parce que nous allons découvrir des créatures de Dieu qui sont là pour administrer des punitions divines. Et nous allons voir, nous allons parler de lieux de tourment, être tourmenté. Donc, le cinquième ange sonna de la trompette, on relit ensemble Apocalypse 9, verset 1, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Je vous rappelle que ce n'est pas une étoile physique. C'est un signe du ciel ou c'est une étoile, ça peut être aussi un ange qui vient et qui transmet un message. La clé du puits de l'abîme, Abyssos, nous avons vu ce que c'était, lui fut donnée. Verset 2, et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Regardez bien ce mot fournaise. Fournaise, ça vient vraiment de feu, hein. Ça veut dire que quelque chose qui brûle et qui amène de la chaleur. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Nous sommes en train de parler de choses spirituelles et expliquer avec des mots que l'on peut comprendre. C'est ça qu'il faut voir dans une vision. La compréhension, c'est-à-dire que souvent dans une vision, il y a description du monde spirituel, mais avec des mots de comparaison, c'est ça qu'il faut comprendre.
Alors muri byose bavuga by'umwotsi n'ibisigaye byose nibicapo kenshi mu kwerekwa rugaragaza gutahura yuko hari ukuntu bavuga iby'impwemu hama bigasaba yuko umuntu abigereranya mu byo yeretswe agatahura ibicapo bamuhaye ico bivuga.
En résumé, ce qu'il est en train d'écrire ici,
muri make ibyo ariko aracapa ngaha avuga,
ce n'est pas que dans la terre, au centre de la terre,
aha munsi
y a un grand une grande réserve de charbon de bois qui est en train de brûler pour faire un grand four. Mais Jean voit des choses dans le monde de l'esprit, du monde spirituel. Et il essaye de décrire cela avec des mots pour que nous puissions comprendre. Il faut bien comprendre, quand il y a la description d'une vision, Jean a eu cette vision. Ensuite, il écrit la vision. C'est-à-dire qu'il essaye d'expliquer avec des comparaisons. C'est-à-dire qu'il prend des choses que nous pouvons comprendre, que dans nos têtes, qui signifient quelque chose. Et là, il voit comme une grande fournaise. Mais on parle de... Il voit dans le monde spirituel. Il voit en fait l'enfer.
Et
il est en train de décrire que c'est comme une fournaise, comme un feu. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on parle du feu de l'enfer. Absolument. Et c'est une vérité parce que la Bible nous le montre. Et le soleil et l'air fut obscurci. Là, c'est encore quelque chose qu'il voit. En fait, il voit comme une fumée qui monte, il voit comme quelque chose qui est embrasé. Mais ce n'est pas l'enfer qui peut obscurcir le soleil physique. Tout ça, ce sont des images. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 3, de la fumée sortirent des sauterelles. Alors regardez, là il va nous donner la description. Il va essayer, en fait, il compare. Il dit voilà, ça ressemblait à ça. Qui se répandirent sur la terre et ils lui furent donné un pouvoir. Alors le mot pouvoir ici dans le grec, c'est le mot exousia, c'est le mot une autorité légale, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Verset 4, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe et à la terre, ni à aucune autre verdure, là aussi c'est un langage imagé volontairement, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Regardez bien ce verbe tourmenter ici. Et le tourment, regardez bien encore ce mot tourment, qu'elle causait, était comme le tourment, encore une fois, que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6, en ces jours-là, regardez bien ici cette expression, regardez bien, bien. Verset 6 va nous donner beaucoup d'explications. Les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Verset 7, ces sauterelles ressemblaient. Alors maintenant, il va nous donner une description plus précise. Il voit comme des sauterelles qui sortent, c'est le premier mot qui lui vient, entre guillemets, à l'esprit, entre guillemets, pour décrire ces créatures ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Alors imaginez-vous des sauterelles qui ont comme des couronnes et leur visage était comme des visages d'hommes. Alors si vous avez déjà regardé une sauterelle ça ne ressemble pas trop à un homme. Hein. Il faut remarquer quand même, à moins que vous ayez pris une loupe et que vous ayez fait une comparaison, mais quand même. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Est-ce que des sauterelles ont des cheveux de femmes, comme des cheveux de femmes? Non. Là, il est en train d'essayer de décrire, vous comprenez? Il essaye de décrire le monde spirituel. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez... Mon pauvre Steve, je suis désolé, mais je suis obligé d'expliquer tout ça. Il essaye, en fait, Jean voit prophétiquement quelque chose qui va se produire. Il voit à la fois les êtres humains sur lesquels ces jugements vont être exercés et il voit en même temps le monde spirituel qui vient frapper ces êtres humains. Vous voyez, c'est ça qu'il décrit ici. Il faut comprendre, quand vous lisez les visions qui sont décrites dans la parole de Dieu, faites attention parce qu'il voit à la fois le monde physique et le monde spirituel. Donc là, en fait, qu'est-ce que Jean est en train de décrire? Il décrit des créatures qui font quoi? Qui viennent de l'enfer. Et ce sont des créatures de Dieu. Nulle part, c'est le diable qui contrôle ça. Rappelez-vous, c'est un ordre du ciel d'ouvrir le puits de l'abîme. Et de là sortent des créatures qui sont des créatures qui tourmentent. D'ailleurs, nous verrons que ces créatures tourmentent les gens en enfer. On va voir, je vais vous montrer d'autres textes. Et ces créatures aussi tourmentent les démons qui sont dans le Tartarus. Dieu a créé des créatures qui tourmentent. Parce que Dieu exerce ses jugements. On va voir une description. Vous allez mieux comprendre après ce chapitre 9. Parce que les gens ont du mal à comprendre certaines choses dans le monde spirituel. Donc, il essaye de donner une description. C'est un peu quand vous lisez Ézéchiel, quand il commence à donner la description des chérubins,
au
chapitre 1, il nous parle de créatures qui ont quatre faces, qui ont des ailes, sous les ailes il y a les mains, il nous parle de roues, où il y a plein d'yeux dedans, des yeux. Et au bout d'un moment, si on voulait représenter ça sur un bout de papier, ça serait un peu difficile. Parce que ce sont des créatures que Dieu a créées, qui sont des créatures célestes. Et là encore, le prophète Ézéchiel essaye d'expliquer du mieux possible avec des mots. Mais on pourra réellement, je dirais, comprendre tout cela à 100%. Le jour où on sera au ciel. Parce que nous savons que nous allons voir ces créatures. Donc Jean voit prophétiquement quelque chose qui va se passer. Dieu, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, va ouvrir l'abîme et faire sortir ces créatures qui tourmentent. Et elles vont pour la toute première fois. En tout cas, l'abîme ne nous rapporte rien, jamais que ces créatures ont pu faire quoi que ce soit sur la terre pour l'instant. Sur un ordre divin. Rappelez-vous, ce sont des ordres divins ici. Ce
ne
sont pas des démons. Satan n'a rien à faire dans ces trucs-là. C'est Dieu qui va exercer des jugements. Comparé avec les 10 plaies d'Égypte. Et quand vous regardez les 10 plaies d'Égypte, en fait, la Bible nous rapporte seulement ce qui s'est passé d'une façon visible avec les plaies d'Égypte. Quand par exemple l'ange de la mort est passé pour tuer tous les premiers-nés, Moïse n'a pas une vision, ou qui que ce soit n'a pas eu de vision. Aucun prophète ne dit voilà, j'avais vu ça dans le monde spirituel et voilà comment ça s'est produit. Parce que nous allons voir que dans l'Apocalypse, certains jugements de Dieu parfois ressemblent à certaines plaies d'Égypte. Rappelez-vous par exemple en Égypte, Dieu avait envoyé quoi pendant une période? Les sauterelles. Vous voyez, là, Jean, lui, il a une révélation. En Égypte, dans les plaies d'Égypte, Dieu envoyait des jugements et il a utilisé différents éléments naturels. Là, on
ne
parle pas de sauterelles physiques. On parle de créatures divines que Dieu a créées pour tourmenter tous ceux qui lui désobéissent, qui sont morts, ou ceux des anges déchus qui ont été capturés. Donc il nous décrit cela. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme et des dents, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Vous aimeriez être mariés, messieurs, avec une femme qui a des cheveux de femme et des dents de lion? Ensuite, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Là encore, il essaye de décrire quelque chose qu'il voit. Il voit dans le monde spirituel. Alors certains ont dit, ah oui, Jean a vu en fait les temps où nous sommes. Prophétiquement, il a vu les chars militaires et tous les camions militaires qui n'existaient pas à l'époque. On ne parle pas de choses visibles ici. Vous savez, j'ai vraiment des fois entendu des commentaires sur l'Apocalypse. Où les gens ne comprennent strictement rien et ils mettent leurs commentaires.
Ici,
on parle de créatures spirituelles. Il essaye de les décrire. Il essaye de faire des comparaisons avec des choses qu'on peut comprendre. Alors, ensuite, d'ailleurs, soit dit en passant, il y a un certain nombre de films récents. Qu'on appelle un peu des films, je dirais, ce qu'on appelle les films fantastiques, les films un peu surréalistes, qui ont pris des descriptions de l'Apocalypse, mais sortis du contexte, et que c'est même certains d'entre vous les regardez et vous ne savez même pas d'où ça a été tiré. Vous savez, les païens utilisent la Bible. Sauf qu'ils ne veulent pas rendre gloire à Dieu. Là, ces créatures vont être là pour tourmenter. Verset 10, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles, regardez bien, comme roi, l'ange de l'abîme, l'ange de l'abussos, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. On va voir ce que ça veut dire. Verset 12, le premier malheur est passé et il y a encore 2 malheurs après cela.
Gukane zari zifise imirizo nk'ya scorpio n'imboyi kandi mu mirizo yazo niho harimo ubushobozi bwo gusesereza abantu amezi 5 zifise umwami wazo niwe mu marayika w'ikuzimu mu gihe burayo yitwa Abadoni mu gigiriki yitwa Apuloni.
Donc on va remarquer plusieurs choses. Rappelez-vous qu'on parle de l'abîme, Abussos. Quand Jean voit, il voit bien après la résurrection de Jésus, donc il y a les gens qui sont en enfer. Là, il ne les décrit pas. Il ne décrit pas les gens qui sont en enfer.
Et
il y a le Tartaros, une partie des anges déchus qui ont été capturés et qui sont emprisonnés. Donc nous avions étudié ça la dernière fois. Là, quand on ouvre le puits de l'abîme, il y a une grande fournaise, quelque chose qui chauffe énormément. Rappelez-vous, nous avions vu dans Luc chapitre 16. On va relire cela. Vous vous rappelez, on avait étudié cette parabole du riche et du pauvre Lazare. On retrouve des éléments. Rappelez-vous, c'est une parabole. On ne peut pas tirer tous les détails et en faire une doctrine. Et il y a un certain nombre de choses, de versets qu'on va voir dans Luc chapitre 16. Versets 23 et versets 28 particulièrement. Où il est dit dans le séjour des morts. Ah, le séjour des morts, rappelez-vous, c'est une partie de l'abussos, de l'abîme.
Mais
là, Jésus, je vous rappelle, va décrire le sein d'Abraham, où il n'y a plus personne maintenant. Et il va décrire un lieu de tourment. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset
23.
Il parle d'un lieu de tourment. C'est strictement le même mot qui est utilisé dans Apocalypse 9. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. En fait, ce mot tourment, c'est un mot qui veut dire en fait être torturé sans pouvoir être soulagé, ni même disparaître, inexister. C'est-à-dire qu'on inflige à quelqu'un des tortures, on lui fait du mal. Cette personne hurle. Elle crie tout ce qu'elle peut. Mais elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont constantes. C'est comme si tu avais une douleur, par exemple, constante sur, avec une maladie. Que tu étais toujours vraiment, tu avais toujours extrêmement mal, extrêmement mal. Horriblement mal, à crier, à hurler. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont malades et qui sont prêts de mourir, qui sont dans cet état-là. C'est terrible. Vous les entendez hurler, vous ne pouvez rien faire pour eux. Ils souffrent tellement. Et rien ne peut les soulager. C'est exactement ce que ce mot veut dire. Mais là, c'est quelqu'un qui vient faire du mal à l'autre, torturer la personne. Tourmenter la personne. Alors, nous, dans ce passage de Apocalypse 9. Je vous rappelle qu'ici nous sommes dans un temps particulier de la tribulation. Je refais encore ce rappel parce que sinon, quand on commence à parler de ces choses-là, les gens disent : mais pourquoi Dieu est-il cruel ? Là, les esprits sataniques se déchaînent complètement sur les hommes. Celui qui ose prononcer le nom de Jésus peut être mis à mort et lui-même torturé et persécuté jusqu'à la mort. La terre est un chaos complet. Rappelez-vous ce que la Bible dit.
Il
parle de l'abomination de la désolation. L'iniquité qui est à son comble, etc. Vous vous souvenez, il y a des expressions très particulières pendant la tribulation. Donc là, Dieu va venir frapper les hommes. Les hommes que Dieu frappe ici. Ce sont des gens qui sont vraiment rebelles à Dieu, qui sont remplis d'esprit satanique, qui trafiquent jusqu'au plus haut point avec l'Antichrist, qui persécutent à mort les chrétiens au maximum. C'est l'horreur totale sur la terre.
Donc
soyons bien clairs, parce qu'il faut le rappeler régulièrement, parce que quand on commence à entrer dans les tourments que Dieu va faire sur la terre, là, en fait, Dieu va faire quelque chose. Dans ce passage d'Apocalypse, Dieu en fait fait sortir volontairement les créatures qu'il a créées, qui ont été créées pour tourmenter uniquement ceux qui désobéissent à Dieu, et il les amène sur la terre. C'est un ordre divin, et il va rendre la terre comme un enfer, entre guillemets. Il va faire goûter aux hommes. Vous savez, des fois, on a cette expression. Ah, c'est comme si, je suis tellement heureux, c'est comme si le ciel, c'est comme si le ciel était sur la terre. Voilà, on a tous des expressions dans toutes les langues de ce genre-là. Ça existe, c'est normal. Quand tu passes par des temps de bonheur, par exemple, quand il y a un événement excellent qui se passe dans ta vie, une intervention divine fabuleuse, comme disait un de mes enfants quand il était tout petit, il disait : je nage dans le bonheur. Eh bien, là, ça va être tout à fait l'opposé. C'est l'enfer, les tourments de l'enfer qui vont venir sur les hommes. En fait, Dieu va leur montrer ce que c'est que la condition des gens qui sont en enfer. C'est exactement ce qui se passe ici. Voyez, il est donné à ces créatures que Jean a du mal à décrire, ces sauterelles aux cheveux longs, avec des couronnes, avec des visages d'hommes, qui ont une espèce de dard comme les scorpions, un pic comme les scorpions, qui viennent, ce sont des créatures spirituelles invisibles à l'œil, et qui viennent et qui empoisonne un peu l'homme.
Bikaza bikasuka ubumara bwabyo buke buke mu bantu.
Là, il est parlé qu'elles vont tourmenter qui, comme les scorpions quand ils piquent un homme.
Ngo bikababaza kujya scorpion iyo iri umuntu imera.
Vous savez, parfois il y a des bêtes qui vous piquent.
Hari gusanga hari ngigikoko udukoko tujya abantu.
Et qui vous empoisonne non pas pour jusqu'à la mort.
Ugasanga kigushizemo ubumara ntupfe.
Mais elles injectent suffisamment de poison.
Hari gusanga hari ubumara bwagiye muri wewe.
Pour vous rendre malade, mais malade, mais malade.
Kubujyo ugwara ukagwara ukagwara.
On dit malade comme un chien en français. Et en fait, extrêmement malade, vous souffrez atrocement.
Urumva ukagwara nabi cyane.
Mais vous ne mourrez pas.
Ariko ntupfe.
Et là, c'est l'idée ici. En fait, l'idée, c'est de tourmenter. L'idée, c'est vraiment, ça nous montre l'enfer qui vient, les tourments de l'enfer qui viennent sur les hommes. Et les hommes vont goûter aux tourments de l'enfer. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a un ange, c'est-à-dire une créature divine, qui est le roi, c'est-à-dire qui contrôle cet endroit, qui contrôle l'abîme. Et effectivement, nous trouvons ce mot Apollyon. Abaddon aussi, il y en a un, c'est un terme grec et l'autre c'est un terme hébreu. Et ça veut dire en fait destructeur. Et on voit que particulièrement dans ce verset 11, il est dit « Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme ». Ce n'est pas un démon, c'est un ange. Que Dieu a prévu pour contrôler les esprits humains qui meurent et qui sont en enfer.
Imana yateguye, umaraika imana yateguye kugira ngo aganze kandi acunge impwemu ziri mu muriro.
Les hommes désireront, hein, verset 6, ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Et remarquez qu'au verset 4 aussi, il est dit en fait que ces créatures de tourment ne doivent pas toucher ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Alors vous vous souvenez dans un autre passage de l'Apocalypse, on avait parlé justement de ces personnes qui ont un sceau sur le front.
Et
on peut se poser beaucoup de questions. Moi personnellement, je pense que c'est le fait d'être né de nouveau.
Ubwanje nibaza yuko ari kuba umuntu yaravutse ubwa kabiri.
Parce que c'est Apocalypse 7, verset 3, c'est pareil. Apocalypse 7, 3, il dit « Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc nous savons que pendant la tribulation, il y a des gens qui vont servir Dieu au milieu des horreurs de la persécution, au milieu des déchaînements sataniques. Vous savez, parfois nous voyons sur cette terre déjà telle qu'elle est, dans l'état dans lequel elle est, des déchaînements sataniques.
Et
je tiens à vous dire que ce n'est pas grand chose par rapport à ce qui va se passer dans ces temps-là. Ça va être vraiment terrible. Jésus le dit d'ailleurs, que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé dans cette période-là. Donc Dieu préserve les siens. Ce jugement ne va pas venir sur les enfants de Dieu, ceux qui se seront convertis pendant la tribulation. Je vous rappelle que c'est leur deuxième et dernière chance de se convertir. Rappelez-vous qu'au début de la tribulation, beaucoup de gens vont être surpris de l'enlèvement. Donc ils vont être là, ils vont dire « Oui, mon frère, ma sœur avait raison. » Il me l'avait dit, pourquoi j'ai pas donné ma vie à Jésus? Il va y avoir ces 7 ans terribles, je le sais, je l'avais déjà appris, mais j'ai jamais voulu les écouter.
Et
les gens vont se donner à Christ. Et au début, ça va secouer. Mais plus on avance dans la tribulation, plus on va dans la deuxième partie de la partie de la grande tribulation, plus ça va être terrible. Et Dieu souvent va exercer un jugement et il va protéger son peuple. Plusieurs fois ça va se passer pendant la tribulation, parce que Dieu ne peut pas frapper son peuple. Ceux qui vont se donner, ils vont souffrir. Nous avons la grâce. Nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel, sans avoir toutes les pressions que eux vont subir et toutes les horreurs que eux vont subir. Donc, on voit qu'il y a un roi qui s'appelle, qui est l'ange de l'abîme. Et donc, tout est contrôlé. C'est pour ça que vous devez faire attention quand vous lisez la parole, et particulièrement l'Apocalypse. Ce sont des jugements qui viennent de Dieu et contrôlés par Dieu. Et c'est ces anges qui exercent les jugements. Ce n'est pas le diable qui intervient ici du tout, du tout, du tout. Donc les hommes vont goûter 5 mois d'enfer sur la terre. Et malgré cela, la plupart ne vont pas se convertir au Seigneur. Et Dieu va être encore obligé d'accélérer les jugements, de frapper encore plus fort et de plus en plus fort. Et il est dit, verset 12, le malheur, voici le malheur est passé. Voici encore 2 malheurs viennent encore après cela. Et là, la 6e trompette va sonner. Je vous rappelle que nous sommes dans le 7e sceau, et le 7e sceau a de multiples jugements. Il y en a 7 au départ. Et nous verrons que lorsqu'il va y avoir la 7e trompette, il va y avoir après les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc en résumé, on voit qu'il va se passer 2 fois la chose suivante. Il y a les 7 sceaux. Les 6 premiers se déroulent, les uns après les autres. Le 7e sceau se déroule avec 7 trompettes. Donc accélération des jugements, je vous le rappelle. Les 6 premières trompettes sonnent. Et nous verrons qu'à la 7e trompette, il va y avoir les 7 coupes de la colère de Dieu. Et là, ça sera la fin de la fin. Dieu va détruire les systèmes de ce monde. La statue de Daniel qui s'écroule, c'est exactement l'accomplissement de la fin de la tribulation. Vous voyez, c'est pas compliqué. Mais il faut avoir de bonnes fondations. Verset 13, il est dit, le 6e ange sonna de la trompette. Donc on est à la 6e trompette. Et j'entendis une voix venir des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et dire au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour et le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 myriades de myriades, j'entendis le nombre. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux de ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes, regardez ce qu'il dit ici, le tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents. Elles ont, il n'est pas dit, leurs queues sont des serpents. Il dit semblables, encore des comparaisons, je vous le rappelle. Elles ont des têtes et c'est par elles qu'elles font du mal. Les autres hommes ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Et ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sortilège, c'est-à-dire de toute la sorcellerie qu'ils faisaient, ni de leurs inconduites, ni de leur vol. Alors, ici, il y a plusieurs choses qu'on va remarquer. Donc, Dieu va libérer des anges de la mort.
izobohora abamarayika b'urupfu.
Et là, je vais vous expliquer un certain nombre de choses que vous devez comprendre aussi. D'abord, on a un détail complémentaire à propos du trône de Dieu, de ce qu'il y a devant le trône de Dieu. Vous vous rappelez que l'Apocalypse 4 nous a donné une superbe description du trône. Avec les chérubins, avec l'arc-en-ciel, avec la mer semblable à une mer de cristal devant le trône, avec les 24 anciens. Et puis nous avons vu que dans les chapitres suivants, il y a aussi un autel devant le trône de Dieu. Vous vous rappelez, il y a des parfums des saints, des prières des saints. Nous avons vu tout cela. Et là, on voit que sur cet autel, encore, il y a 4 cornes. C'est quelque chose que Dieu nous rajoute dans sa parole pour une description plus complète. Et rappelez-vous que vous allez voir ces choses-là quand vous irez au ciel. Vous pourrez dire, Seigneur, je voudrais voir l'autel qui est devant ton trône. Et ta parole a dit qu'il y avait 4 cornes. Je veux voir ces cornes. Et Dieu te montrera toutes choses qui sont décrites ici, frères et sœurs. Parce que Dieu te fera faire un joli petit tour partout. Dans sa gloire. Nous avons des descriptions ici. Alors, la Bible va nous parler d'anges qui sont liés et déliés. Alors, j'aimerais faire une bonne parenthèse là-dessus. Parce que ici, on a l'impression que le verbe lier, ça veut dire que les anges sont les mains dans le dos et il y a des chaînes qui sont là pour les empêcher de bouger. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Il
n'y
a pas d'anges qui sont liés par Dieu et avec des chaînes, sauf les anges déchus, ça c'est clair, c'est-à-dire les démons qui ont été dans le Tartaros, qui sont dans le Tartaros.
Mais
ça, ce sont des anges qui sont fidèles à Dieu. Et à qui Dieu va donner un mandat divin. Les anges sont organisés, très organisés. À chaque ange, Dieu donne une mission spécifique. Une permissivité d'autorité sur un champ d'action particulier. Ça veut dire que les anges de Dieu ne font pas n'importe quoi. Ils ne disent pas, tiens, moi je vais aller faire ça aujourd'hui. Les anges reçoivent des ordres.
Et
ils ont des territoires spirituels sur lesquels ils doivent agir. Je vais vous montrer dans la parole. Regardons ensemble le psaume 103. Parce que là, franchement, quand on lit un tel passage, on s'imagine vraiment ces anges qui sont enchaînés et d'un seul coup, Dieu va enlever les chaînes et leur dire, voilà, faites ça pour moi. Mais ça semble complètement insensé. Pourquoi est-ce que des anges qui sont fidèles à Dieu, qui marchent selon les ordres de Dieu, seraient d'abord enchaînés? Quand vous êtes enchaîné, c'est que vous êtes prisonnier. Ça veut dire que certainement vous avez fait quelque chose de mal vis-à-vis d'une autorité.
Et
alors, si d'un seul coup on enlève vos chaînes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des bêtises, oui. Vous êtes d'accord ou pas? Donc ça n'a pas de sens d'interpréter ça comme ça. Non, ce sont des anges qui ont un certain champ d'action, une permissivité de Dieu. Comme tous les anges. Le monde angélique est ultra organisé. Et le quartier général, c'est le trône de Dieu. C'est de là où Dieu envoie. L'Apocalypse, c'est exactement ça, frères et sœurs. C'est Dieu qui envoie des ordres et des mandats à ses anges. Vous, vous allez faire ça maintenant. Vous, vous allez faire ça maintenant. C'est tout. Et ils obéissent. Regardons ensemble. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force. Et qui quoi ? Exécutez quoi ? Ses ordres. Pas n'importe quel ordre. Pas vos ordres, ses ordres, et obéissent à la voix, et obéissant à la voix de sa parole.
Ngo muhimbaze Uhoraho mwebwe bamarayika biwe mwebwe banyenkomeza nyinshi bashikisha ijambo giwe kubangira ugutwi ijwi ry'ijambo giwe.
Donc ce passage va nous instruire en revenant à Apocalypse 9.
Tugarutse rero mu byashura Yohana 9 iri jambo ryadufasha.
Et l'idée ici, c'est pas que ces anges étaient prisonniers, c'est que ces anges avaient un rayon d'action. Ils étaient liés dans le sens, liés par la parole de Dieu.
Et
Dieu leur donne maintenant des ordres. Remarquez qu'on parle de l'Euphrate. Rappelez-vous que c'est un grand fleuve. En Mésopotamie, du côté de l'Irak. C'est pas la première fois où la Bible va nous décrire quelque chose dans le monde invisible à propos de cet endroit-là. Nous allons en découvrir que même dans Daniel,
il
y a quelque chose qui nous est révélé à propos du monde invisible. Parce que là, on voit que il y a un aspect ici où on reparle encore du Moyen-Orient. Regardons ensemble dans Daniel chapitre 10,
versets
12 à 14. La Bible encore va nous montrer une vérité. Vous savez, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y avait quelque chose de très spirituel dans cet endroit du Moyen-Orient. Dieu a planté le jardin d'Éden, où ça ? Lisez le début de la Bible, vous verrez qu'on parle du fleuve Euphrate. Les trois premiers empires les deux premiers empires dont il est parlé dans la statue de Daniel. Bon, on parle de Babylone. Les Babyloniens, les Mèdes et les Perses. Dans Daniel chapitre 10, Daniel est en train de prier, il est à Babylone. Et regardez ce qui se passe. Il me dit, c'est l'ange qui vient visiter Daniel pour lui donner un message. Il me dit, Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse. C'est un ange qui est en train de parler à Daniel. Le chef du royaume de Perse, ce n'est pas un bonhomme. C'est un esprit satanique, ce qu'on appelle un esprit territorial. M'a résisté 21 jours. Là, on parle d'une bataille entre un ange qui vient annoncer un message à Daniel qui est empêché par un esprit satanique.
Gomaza arambwira ati ntacutinya Daniel kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amajambo yawe yarumviswe kandi ayo majambo yawe nyene niyanzanye ariko segaba w'ubwami bw'ibuperesi yamaze iminsi 21 andwanya uwo segaba bavuga se umuntu ni umuntu iki impwemu mbi yo mukireraho yaganza aho hantu.
Donc il est dit, mais voici Michel, Michael, Michel, l'ange, l'archange Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc on sait clairement qu'il y a des batailles qu'on ne connaît pas dans le monde spirituel entre des anges de Dieu et des esprits sataniques pour des actions sur la terre, pour des influences sur la terre. On ne sait pas tout parce que ça se passe au deuxième ciel. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas à exercer une autorité quelconque au deuxième ciel. Nous avons le droit d'exercer notre autorité spirituelle, nous qui sommes en
Christ,
dans les domaines où nous avons ce rayon d'action, ce droit légal de l'utiliser. Dans nos vies particulièrement, ou dans nos oppositions, des attaques sataniques contre nos propres vies. Ça s'appelle l'autorité spirituelle que nous avons. Maintenant, on voit clairement, c'est pour illustrer, pour revenir sur l'Apocalypse
9,
qu'il y a des anges qui ont des rayons d'action avec des permissivités divines, des mandats divins. Ils ne sortent pas de leur mandat divin. Ils n'ont pas l'autorité légale de le faire. Et là, au verset 15 d'Apocalypse 9, il est dit les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, donc ils ont eu un mandat divin pour l'heure, le jour, les mois, l'année, furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Donc là, ils vont passer de leur action sur le deuxième ciel directement sur une action sur la terre, au premier ciel. Et il est parlé au verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée, il parle d'une armée céleste ici, qui ont suivi ces anges, qui étaient 2 myriades de myriades, c'est-à-dire 2 000 milliers. Ça fait combien 2 000 milliers, les mathématiciens? Non, 2 000 milliers, ça fait combien?
2 millions.
Les mathématiciens, il n'y a pas un mathématicien ici? 2 000 milliers, 2 000 fois 1 000. Non, 2 000 fois 1 000. 2 millions. Bien sûr, 2 millions, voilà. Il faut revoir vos mathématiques. Vous voyez, dans la Bible, il y a des mathématiques. Donc, ça fait 2 millions. 2 millions. Voilà, tout simplement. 2 millions, ça fait. Et donc là encore, il a une description de chevaux avec des têtes de lion. Là encore, il voit des créatures. En fait, il essaie de décrire. Mais l'idée encore, c'est Dieu qui envoie des anges qui vont venir exercer ses jugements. Les anges de la mort. Un tiers des hommes vont être tués. On est presque au bout de la tribulation. Si ça se passait aujourd'hui sans que l'Église soit enlevée, il y aurait 2 milliards de personnes qui disparaîtraient comme
ça.
Dieu va frapper sec. Il
ne
va pas faire de cadeau à ces inconvertis, ces gens qui ont tellement trafiqué avec les démons. Donc là, on voit ces créatures qui sont montées sur des chevaux, etc. Et il explique un petit peu comment elles vont être tuées. D'après ce qu'il voit. Mais il voit quelque chose de spirituel. Rappelez-vous.
Ce
n'est pas du feu littéral, ce n'est pas du soufre littéralement, mais il compare.
Si.
Alors, malgré cela, malgré ces jugements que Dieu va continuer d'intensifier dans une mesure absolument phénoménale, les deux derniers versets de ce chapitre nous montrent vraiment quelque chose d'étonnant.
Ils
nous montrent l'attitude de ces gens qui pourtant sont secoués dans tous les sens. Rappelez-vous, Dieu va tout secouer. dans tous les sens. Dieu, je vous le rappelle, va dire, vous allez voir qui je suis. Vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez craché dessus, vous n'êtes pas du tout occupé de moi, au contraire, vous m'avez insulté. Je vous ai donné des avertissements dans ma parole. J'ai donné au moins 2000 ans de grâce. N'importe qui pouvait être racheté gratuitement de ses péchés. J'ai enlevé mon église pour vous prouver que ce que je disais dans ma parole, c'était la vérité. J'ai commencé à envoyer les jugements dans l'ordre et dans le temps où la parole l'a dit. Vous êtes au bord du gouffre, la suite se produira sans appel.
Et
la Bible dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'airain, etc., etc., etc. Verset 21. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, etc.
Ku murongo wa 22 ngo abantu barokotse batishwe n'ivyo byago ntibihana ibyakozwe n'intoke zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibyo bamana n'ibindi ku murongo wa 21 kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubushakanye cyangwa ubusuma.
Voyez aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la grâce. Nous disons aux gens, repentez-vous, acceptez Jésus.
Et
les gens qui se repentent, qui acceptent Jésus, nous sommes là. Et beaucoup de gens qui disent, il est où ton Dieu? Tu lui as dit bonjour aujourd'hui? Oh Dieu, si tu existes, viens me tuer maintenant.
Et
après ils te disent, mais hein, tu vois, je ne suis pas mort. Et Dieu ne dit rien. Mais après, l'enlèvement va se produire. Et là, les gens, certains vont dire, hey, waouh, ils ont eu raison. C'était eux qui avaient raison. Ils vont se convertir, certains d'entre eux. Mais beaucoup vont renier Jésus, ils vont perdre leur salut pendant la tribulation. Nous reverrons cela. Parce que beaucoup vont renier Jésus. Beaucoup qui seront nés de nouveau vont renier Jésus pour se donner complètement à l'Antichrist. Parce qu'il y aura des persécutions terribles. Parce qu'ils n'auront pas l'amour de la vérité réellement. Parce qu'ils auront accepté le Seigneur après l'enlèvement, parce que l'enlèvement sera produit. Mais ça, c'est la deuxième grande chance. Que Dieu va donner aux gens de se convertir pendant la tribulation. Et là, vous voyez, là, on voit l'endurcissement total des cœurs. Les gens qui disent jusqu'au bout, moi, Dieu, je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est adorer le diable.
Ils
vont aller à fond. Je vous rappelle, on ne sait pas, la Bible ne décrit pas tous les péchés abominables jusqu'où les gens vont aller. Mais apparemment, ça va aller très très loin. Nous verrons qu'il y a un moment où les gens vont prendre la marque de la bête et que ça sera, la Bible nous dit que c'est irréversible. Ça va être une telle alliance avec Satan au travers de l'Antichrist et du faux prophète. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de retour à ce moment-là. Il ne sera plus possible de se repentir. Et là, Dieu, vous voyez, a envoyé des jugements. Imaginez-vous si un tiers de la terre aujourd'hui, un tiers des hommes mourait comme ça. Vous ne pensez pas que les gens réagiraient quelque part? Là, il n'y a aucune réaction de ces gens-là. Il reste comme si il n'y a rien et comme si Dieu était encore un mensonge. Alors maintenant, nous allons aborder le chapitre 10 et nous allons juste l'introduire. Et en fait, à partir du chapitre 10, jusqu'une partie du chapitre 11, il va y avoir une sorte de parenthèse qui va précéder la septième trompette.
gucishamo gato mbere yuko batandukira inzamba y'indwi.
Et là nous allons commencer avec le chapitre 12 et le chapitre 13 après.
Maze mu nyuma tuzoja kuri 12 igice cha
13. Nous allons entrer très sérieusement dans la grande tribulation.
Maze rero twinjire mu gihe cihamwa cyane.
Et là on va voir comment Satan va réagir au jugement de Dieu.
Maze ngaha tuzobona ingene Satani nawe azoca tangura gukora.
Quel est son plan qui est déterminé d'avance, que Dieu connaît d'avance, et que Satan va mettre à exécution pendant cette période de tribulation. Mais là, il va y avoir une sorte de parenthèse qui va précéder la septième et dernière trompette.
On va lire
le chapitre 10. Et là, on va regarder un certain nombre de choses dont on va voir la description encore. On va découvrir encore des choses dans la parole de Dieu, dans le monde invisible. La Bible nous dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Imaginez-vous, là on voit la description d'un ange ultra puissant.
Ngombona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu no mu mutwe yari yambaye umunwa w'amazi mu maso hiwe hasa n'izuba amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro.
Voyez, il y a dans la Bible nous décrit des anges.
Bibiliya iratubwira abamarayika.
Nous décrit des archanges.
Ikatubwira abakuru b'abamarayika.
Nous décrit des anges puissants.
Ikatubwira abamarayika b'inkomezi.
Mais honnêtement, quand on regarde la description de cet ange ici,
urabyera ko ingena bavuga uyu mumarayika,
il est rempli de la gloire de Dieu.
Urabona ko yuzuye ubuninahazwa bw'Imana.
Rempli de la gloire de Dieu.
Yuzuye ububasha n'ubukuru bw'Imana.
Il y a pratiquement que Jésus qui a été décrit comme cela. Son visage comme le soleil, les pieds comme les colonnes de feu. Quand vous regardez Apocalypse chapitre 1, on voit la gloire de Christ. Et là, cet ange reflète une partie de la gloire de Christ. Donc vraiment, quand la Bible nous parle d'un ange puissant, ça doit être sérieusement un ange puissant. Parce que la Bible nous décrit souvent des anges. Mais plus, par exemple, vous rappelez de l'ange qui a visité Corneille, par exemple.
Il
se présente, Corneille va être surpris.
Mais
apparemment, il ressemblait, entre guillemets, dans son apparition, à un homme.
Et
il ne nous est pas dit qu'il y avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, son visage était comme le soleil, etc.
etc. Il y a des hiérarchies
dans les créatures angéliques et qui brillent en gloire, plus ou moins, qui ont des mandats divins, qui ont une certaine permissivité, donc qui sont liés, entre guillemets, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, par la parole de Dieu, c'est-à-dire par les ordres divins.
Muri twa mugina bugaraniwe mu gikogwa mwijambo Imana yabahaye.
Verset 2.
Kumurongo wa kabiri.
Il est dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre.
Ngo yari afise mu minwe agatabo kazinguruye ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga icy'ibumoso agishinga imusozi.
Alors là, il faut faire un petit peu attention parce que est-ce que c'est la terre physique, est-ce que c'est la mer physique?
Ahanu kugaba mbegu.
Est-ce que c'est une image? Alors, la mer souvent est le symbole des peuples, surtout dans le langage figuratif de l'Apocalypse. On verra par exemple que la bête va monter de la mer. Ça ne veut pas dire qu'elle est montée de la mer, que c'était une créature marine.
Mukiaga, sikiaga ibahari tubona.
C'était pas un poisson. on verra que la bête, en fait, l'idée de monter de la mer, ça veut dire qu'elle est, c'était un homme qui est monté au-dessus des hommes.
Anova iki gicapo cyo kuva mukiaga nova ko ari umuntu avuye mu bantu.
Donc ici on voit que cet ange puissant a un livre dans la main.
Harongo turabona ko afise ngo mu minwe agatabo uyu mumarayika w'inkomezi.
Continuons la lecture.
tubandanye.
Il est dit, il cria d'une voix forte comme rugit un lion, et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix.
Ngo asemerera n'ijwi rirenga nkuko intambwe yivuga asemereye imituragarondwi ituragara amajwi yayo.
Alors, ces tonnerres, rappelez-vous, la Bible nous parle de créatures, les chérubins, et aussi autour du trône de voix de tonnerre.
Wibuke rero yuko hirya no hino y'intebe y'inganje batubwira amajwi y'imituragaro.
Vous avez vu quand le tonnerre, des fois ici, quand il y a les gros orages, la tropicaux qu'on a ici, quand ça craque et qu'on ne s'y attend pas, on est surpris. Dieu a donné des phénomènes naturels parfois pour nous donner une image de certaines choses spirituelles. Et le tonnerre, ça amène entre guillemets une certaine révérence. On se sent petit après des gros coups de tonnerre. Vous avez remarqué ça? Quand il y a un gros orage qui arrive, mais vraiment un très très gros, les plus gros auxquels on a pu assister, d'un seul coup on se sent petit parce qu'on a l'impression que d'un seul coup ça va nous tomber dessus.
Mais
parfois ça peut surprendre et faire peur à certaines personnes
parce
qu'on ne s'y attend pas, c'est soudain et ça nous
secoue
quelque part. La Bible nous parle que dans le ciel, il n'y a pas du tonnerre tel que des nuages qui font ensemble. Mais ce sont des voix qui parlent, des voix divines qui parlent. Là, la Bible nous parle des sept tonnerres qui firent entendre leur voix. Continuons la lecture. Et il est dit, quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire, ferme le d'un seau ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Donc ce sont des messages qui venaient du trône de Dieu. Et qui ont été donnés avec une voix puissante, c'est l'idée ici. Et Jean a entendu ces choses. Mais vous voyez, l'Apocalypse nous révèle un certain nombre de choses. Mais ne nous révèle pas tout. Ici même, il a ordre. Vous voyez, il sait ce qui a été dit par ses voix. Il sait ce que Dieu a dit. Il y a des choses que Dieu lui a dit à Jean, qu'il voulait écrire. Mais il a entendu une voix du ciel qui disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres, ne l'écris pas. Donc, Jean sait des choses qui n'ont pas été révélées. Il a eu certainement des explications ou certaines choses que Dieu va faire. Mais que Dieu veut garder mystérieuses parce qu'il donne déjà beaucoup de son plan pendant la tribulation. Mais il y a certaines clés qu'il n'a pas voulu révéler dans sa parole qui restent mystérieuses et qui s'accompliront comme nous le verrons la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté. Et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.